Béni soit Dieu. Je suis content que vous soyez là ce soir après avoir annoncé le thème. Je me suis dit peut-être qu'il n'y aura personne. Mais c'est une joie de savoir que Dieu a un programme formidable pour nous. Et comme nous le disions hier soir, que son désir est que nous soyons remplis jusqu'à toute sa plénitude. J'aimerais vous dire qu'il n'y a pas de sommet plus haut que ça. Il n'y a pas de programme plus extraordinaire pour nos vies que d'apprendre que le Seigneur désire que nous soyons remplis jusqu'à toute sa plénitude. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à ce texte quand vous l'avez lu ou quand vous l'avez entendu prêcher, mais réalisez que le but de Dieu est que nous soyons remplis jusqu'à toute sa plénitude. Ce n'est pas rien quand on pense à tout ce qu'est le Seigneur comme perfection, comme gloire, comme sainteté, comme vérité, toutes les perfections de son caractère divin. Il désire que tout cela se réalise en plénitude dans notre vie. Et c'est une bonne chose que nous soyons à ses pieds et que nous laissions sa parole, qui est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier, que nous la laissions nous ouvrir la voie afin que nous découvrions par quel chemin nous pourrons arriver à ces choses-là. J'aimerais avec vous ou pour vous relire ce texte de l'Épître aux Éphésiens qui servira de base à nos rencontres jusqu'à dimanche matin. Éphésiens chapitre 3 verset 14 où Paul écrit « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Je vous propose que nous nous recueillions encore et nous allons prier ensemble le Seigneur. Bon et tendre Père Céleste, puisque nous avons désiré être dans ce lieu ce soir pour chanter notre joie, notre foi et écouter ta parole, donne-nous d'être maintenant attentifs aux conseils divins. Que nos cœurs soient malléables sous l'action de ton esprit, afin que tu nous parles, que tu nous encourages, que tu nous consoles, que tu nous corriges, que tu nous fortifies, que le Saint-Esprit ait un libre accès jusqu'au plus profond de notre être, afin que nous ne soyons pas seulement présents ici, mais que nous bénéficions au maximum de tout ce que tu veux faire dans nos vies. Donne-nous de nous comporter comme un peuple qui croit réellement ta présence dans ce lieu. Que nous nous comportions comme si nous te voyions avec nos yeux, respectueux de ta présence, de ton caractère divin, de ta volonté, de tes intentions à notre égard. Brise toute opposition à ta parole. Éloigne tout ce que le diable voudrait inventer pour nous empêcher de recevoir ta parole comme il convient. Accorde-moi l'onction de ton esprit pour annoncer cette parole, mais accorde aussi l'onction de ton esprit pour l'écouter et la recevoir. Seigneur, nous te bénissons pour ce que tu vas faire en cette soirée, dans le nom de Jésus. Amen. Le programme de ce texte de l'Épître aux Éphésiens est très vaste. Je vous avoue que nous n'aurons pas assez de réunions pour aller au fond de ce texte, mais je me méfie de ce que je dis. Parce qu'à Narbonne, parlant de la communion de Dieu dans Genèse 18, j'ai eu le malheur de dire « il nous faudrait une réunion de plus ». Alors ils me l'ont mise dimanche soir. Alors je ne vous dirai pas ici combien de réunions il nous faudrait de plus pour aller au bout du texte des Éphésiens, parce que ma femme et moi, réunion ou pas, fini, on rentre. Mais nous allons essayer quand même, avec la grâce de Dieu, d'aller au fond des choses. Nous allons lentement, et même si on ne voit pas tout, nous irons lentement. Paul commence par dire aux Éphésiens, nous l'avons souligné hier soir, « Je fléchis les genoux devant le Père. » Une parenthèse, partout où j'ai été pasteur, nous nous sommes efforcés dans nos réunions de prière avec l'Église de prier à genoux. Moi-même, les frères anciens, les chrétiens de l'Église venant à la réunion de prière, quand l'heure de la réunion était venue, nous nous mettions à genoux devant nos chaises tout le temps où nous prions le Seigneur dans la mesure où notre santé nous permet de le faire. Un collègue pasteur un jour a essayé de me convaincre que la position à genoux n'était pas biblique, forcément. Il y a bon. Moi, j'ai vu que Daniel priait à genoux 3 fois par jour. Le Seigneur Jésus priait incontestablement à genoux, à Gethsémané, la face contre terre. L'apôtre Paul a prié à genoux avec les chrétiens sur le rivage. L'apôtre Pierre a prié à genoux avant de ressusciter Dorcas. Alors, c'est vrai que la position physique n'est pas la plus importante, mais je crois que c'est bien que nos églises, je le dis librement, réapprennent à prier à genoux. Parce que si la position physique n'est pas tout, elle marque quand même quelque chose, c'est que non seulement nous faisons plier notre corps devant la majesté de Dieu, mais nous exprimons par là que nous faisons plier en même temps tout notre être. Et il y a une position de respect, il y a une position de soumission, d'adoration, d'humiliation devant le Seigneur. Et je me réjouis de voir un homme comme l'apôtre Paul, dans la vie duquel le Seigneur avait pu faire tant de choses, dire humblement, simplement aux chrétiens de l'église d'Éphèse, « Je fléchis les genoux devant le Père. » Je voudrais, avant d'entrer un petit peu dans le vif du sujet, vous faire remarquer l'importance qui est attachée à la position spirituelle dans l'Épître aux Éphésiens. Tout d'abord, le Seigneur nous présente comme des gens qui, avant de le connaître, étaient couchés, ensevelis. Puisqu'au chapitre 2 de l'Épître aux Éphésiens, Paul rappelle à ces gens, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois. » Quand on est mort, on est couché. Et la première position spirituelle soulignée dans cet épître, c'est que l'être humain, s'il n'a pas Jésus dans sa vie, est couché. Il est mort au niveau de son esprit, de son être intérieur, dans ses péchés. J'aurais passé là-dessus, mais je crois que le Saint-Esprit, pendant que vous chantiez les cantiques, m'a demandé d'insister là-dessus. J'aimerais vous ramener vers quatre morts dans la parole de Dieu. Et vous allez voir que ce soit récent ou plus, depuis plus longtemps, ils sont tous couchés. Le premier, c'est un jeune homme qui était dans l'assemblée, Eutychus. Une réunion formidable, beaucoup de lampes étaient allumées pour cette réunion, donc on y voyait bien clair. Il y avait un prédicateur formidable cette nuit-là, c'était l'apôtre Paul, qui, devant partir le lendemain, a pris du temps pour annoncer la parole de Dieu, et il a prêché très longtemps. Parce que quand on est dans la présence de Dieu, au fond, le temps ne compte plus, on sera avec lui pour l'éternité. Là-haut, il n'y aura plus de montre. Nous serons hors du temps. Et regardez-le, ce jeune homme. Était-il converti? Ne l'était-il pas? Je n'en sais rien. Mais sa position physique m'inquiète. Il était assis sur le bord de la fenêtre. C'est une position dangereuse pour les jeunes que d'être assis sur le bord de la fenêtre de l'église. Parce que on peut tout aussi bien être attentif à ce qui se fait dedans que ce qui se fait dehors. C'est très facile de se laisser attirer par ce qui est dedans ou par ce qui est dehors. C'est la position de certains jeunes aujourd'hui, convertis ou pas convertis, dans nos assemblées, et je suis convaincu que ça concerne des jeunes ici ce soir. Sinon, le Saint-Esprit ne m'aurait pas demandé d'aller dans cette direction. Je suis convaincu que dans cette salle, ce soir, il y a des garçons, des filles qui, comme Eutychus, sont assis sur le bord de la fenêtre. Un peu les choses de Dieu, un peu les choses du monde, et tu le sais très bien. Et quand on est comme ça, la parole de Dieu finit par nous endormir. On n'y attache plus vraiment le tréfonds de notre être, tout notre zèle, tout notre dynamisme. Et la parole de Dieu nous dit qu'à un moment donné, Eutychus s'est endormi. Il a été là, saisi de sommeil pendant le long discours de Paul. Et il a fini par tomber. Mais j'aimerais faire remarquer aux jeunes ici ce soir qu'Eutychus n'est pas tombé dans l'église. Mais il est tombé dehors. On ne tombe jamais dans l'Église. On tombe dans le monde. On tombe dans le péché. On tombe dans les bras de Satan. Et quand on a une position partagée où c'est un peu le Seigneur et un peu le monde, ça ne peut pas finir bien. Eutychus est donc tombé dehors, entraîné par le sommeil. Et la parole de Dieu nous dit qu'il est tombé du troisième étage en bas. Et quand des jeunes tombent, ils tombent de trois étages. Ils tombent au niveau de leur esprit, ils tombent au niveau de leur âme et ils tombent au niveau de leur corps. Il y a trois étages. Et qu'est-ce que vous croyez? Quand à arriver du troisième étage en bas, Eutychus est resté debout? Que croyez-vous qu'il ait rebondi pour remonter au troisième étage dans la salle de réunion ? Mais on l'a relevé mort. Et n'en doutez pas une seule seconde, quand Paul est descendu et quand certainement des chrétiens sont descendus avec lui, on a ramassé ce jeune homme mort. Ça faisait juste quelques secondes qu'il venait de mourir, mais il était déjà couché dans la mort. Je m'adresse ici à des jeunes ce soir qui sont morts depuis quelques heures seulement. Peut-être que c'est cet après-midi que tu es mort. Peut-être que c'est cet après-midi que tu es tombé dans le péché, avec un garçon, avec une fille. C'est peut-être cet après-midi que pour la première fois tu as touché à la drogue, à l'impureté. Tu es là dans cette réunion ce soir, mais ma fille, tu es couchée dans la mort. Mon garçon, tu es là ce soir, mais comme Eutychus, tu es dans la mort. Eh bien, même si ça fait quelques minutes ou quelques heures que tu es mort, le Seigneur a le pouvoir de te rendre à la vie. Le second exemple, c'est une fille de 12 ans. Elle est certainement morte depuis plus de quelques minutes. C'est un peu plus qu'Eutychus. Certainement depuis quelques heures. C'est la fille de Jaïrus. Elle est encore dans sa chambre, mais elle est morte. Mais il y a une ambiance terrible autour de cette fille, dans sa chambre, autour de la chambre. Il y a des gens qui crient, il y a des gens qui pleurent, selon la coutume de l'époque. Il y a même de la musique, il y a les joueurs de flûte. Ah, il y a une certaine ambiance, mais c'est une ambiance de mort. Vous allez dans la jambe de certains gars, de certaines filles, ils ont 12-13 ans, on a l'impression qu'il y a de l'ambiance. Il y a l'ordi, parce qu'on n'a même plus le temps de dire ordinateur, c'est l'ordi. Il y a les boules sur les oreilles, avec des fils qui relient la musique. Il y a la chaîne, enfin il y a deux chaînes, trois chaînes, ils sont enchaînés de partout. Il y a les posters de films fantastiques, de joueurs de basket, de stars de cinéma. Oh, il est beau. Il y en a partout de toutes les couleurs. Oui, mais la fille, elle est morte. Autour de la chambre, il y a de l'ambiance. Il y a même des gens. Mais vous la regardez bien, la fille, elle est couchée sur son lit, elle est morte. Ça fait un petit bout de temps. Il y a des gars, il y a des filles comme ça. Mais quand on est mort, on est couché. Et la fille de Jaïrus était sur son lit. Mais Jésus l'a rendue à la vie. Et puis il y a le fils de la veuve de Naïn. C'est encore un peu plus dans le temps, ça. Non seulement il est mort, mais on a eu le temps de préparer l'ensevelissement, et quand on parle de lui, il est en route vers le cimetière. C'est plus encore qu'Eutychus, c'est plus encore que la fille de Jaïrus. On est en route vers le cimetière, et il est sur une civière, parce que le cercueil, selon l'époque, c'est ça. Ça fait certainement bien des heures qu'il est décédé, ce garçon-là. Et Jésus croise le cortège funèbre. Il touche le cercueil. Ceux qui le portent s'arrêtent. Et Jésus parle aux morts. Et il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et la vie revient dans le corps de ce fils de la veuve de Naïn. Et Jésus le rend à sa mère. Peut-être qu'au fond de ton cœur, tu te dis, toi, jeune fille, ce soir, oh, mais moi, ça fait plus longtemps que je suis mort, plus qu'Eutychus, plus que la fille de Jaïrus. Le péché a eu le temps de faire des ravages dans ma vie. Moi, sur le plan spirituel, je suis déjà en route vers le cimetière. C'est pas possible que ce soir, Jésus fasse quelque chose pour moi. Il y a trop de choses mauvaises que j'aime. Il y a trop de choses qui me lient. Il y a trop de choses qui m'enchaînent, qui m'entraînent. Mais le Seigneur Jésus, ce soir, est capable de toucher ton cercueil. Il est capable de te parler. Et je ne peux pas croire que déjà dans cette réunion, tu n'entendes pas sa voix résonner au fond de ton cœur et te dire, mais jeune fille, lève-toi, Jeune homme, lève-toi, j'ai le pouvoir de te rendre à la vie, j'ai le pouvoir de briser les chaînes de la mort, j'ai le pouvoir de te délivrer de la puissance de tes passions, de pardonner tes péchés, de changer ta vie. Ne reste pas couché dans ta mort, mais lève-toi. Moi, je te donne l'ordre et je te donne la puissance de le faire. Ta vie peut changer ce soir. Tu peux être arraché, tu peux être arraché à tes copains, à tes copines, à tes passions, à tout ce qui est mauvais et devenir une nouvelle créature, un gars de Dieu, une fille de Dieu. Et alors le pire, parce que j'y vais crescendo, c'est Lazare. Il est là couché dans sa grotte, dans son sépulcre, depuis 4 jours. C'est plus que Tychus lui vient de tomber. C'est plus que la fille de Jaïrus qui est encore sur son lit dans sa chambre. C'est plus que le fils de la veuve de Naïn qu'on conduit déjà au cimetière. Lui, ça fait 4 jours qu'on l'a conduit là, dans son sépulcre. On a roulé une grosse pierre devant. Et quand on arrive là, Marthe, la sœur du mort, dit à Jésus, mais il est dans décomposition. Ça fait 4 jours qu'il est là, son corps se décompose. Et c'est la puanteur qui s'exhale de ça. Mais Jésus, tu n'y penses pas, on ne va pas rouler la pierre de l'entrée du sépulcre, c'est une infection à l'intérieur. Il sent mauvais, il sent la mort, il se décompose. J'aimerais m'adresser ce soir, pas forcément à un jeune, mais à une épouse, femme d'un chrétien, à mari d'une chrétienne, qui est là et qui se dit, mais alors moi, c'est sûr, Lazare, c'est moi. Ça fait des années que je vis dans le monde, que je vis dans le péché. Je suis là à cette réunion ce soir parce que c'est une mission. Bon, je suis venu, mais c'est vrai, pasteur, c'est vrai. Lazare, c'est moi. Je suis en pleine décomposition sur le plan spirituel. Mais oui, je sens mauvais. Je veux bien croire que les chrétiens respirent la bonne odeur de Christ. Mais moi, je suis là avec la misère de mon alcool, de ma drogue, de ma violence, de mes magouilles financières, de mes mensonges, de ma violence. Je suis là avec tout ce qu'il y a de pourri dans le monde. Je sens mauvais. Eh bien, Jésus est le Jésus du miracle. Il a dit, je suis la résurrection et la vie. Il y a peut-être ce soir ici un frère, une sœur qui a bien marché avec le Seigneur. Et puis qui a décroché depuis 6 mois, depuis 1 an, depuis 2 ans, depuis 5 ans, et qui est là avec le vide de son cœur en disant « Mais j'ai perdu du temps, j'ai gâché des années, j'aurais dû rester attaché à Jésus, et puis je suis retourné dans le monde, j'ai lâché la main du Seigneur, et ce soir c'est, je sens bien que c'est plus comme avant, je suis là couché dans ma mort ». L'Épître aux Éphésiens a raison, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Eh bien, je voudrais vous dire, qui que vous soyez, que ce n'est pas trop tard et que ce soir, c'est ta chance de remettre ta main dans celle de Jésus. C'est ton bonheur que de pouvoir entendre la voix de Jésus. Lazare, sors ! Lazare, sors ! Et un prédicateur disait un jour que le Seigneur Jésus a prononcé le nom de Lazare parce que s'il s'était contenté de dire « sors », tous les morts seraient sortis. Il s'adresse à quelqu'un de précis ce jour-là et il dit « Lazare, sors !» Et l'Évangile nous dit que le mort sortit, le visage enveloppé d'un linge, le corps lié de bandes, mais vivant, on l'a délié et on l'a laissé aller. Et c'est ce que Jésus peut faire dans ta vie ce soir. Il n'est pas trop tard pour entendre la voix du Fils de Dieu. Vous étiez morts dans vos offenses et dans vos péchés, couchés. La seconde position, c'est qu'une fois que nous avons reçu Jésus dans le cœur, comme racheté de Jésus, comme pécheur perdu mais sauvé par lui, il nous a ressuscité de la mort et de la position couchée, nous sommes passés à la position assise. Mais pas n'importe où. Écoutez bien dans l'Épître aux Éphésiens. Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, Il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il n'est pas dit qu'il nous fera asseoir un jour, mais il est dit qu'il nous a fait asseoir. Nous avons les pieds bien sur la terre, mais sur le plan spirituel, nous sommes déjà assis avec Christ dans les lieux célestes. Nous avons les pieds sur la terre, mais notre cœur est là-haut. Et là-haut, Jésus est au-dessus de tout. Il est au-dessus de tous. N'allons pas nous laisser impressionner, intimider par notre adversaire, par les épreuves, par les difficultés, par les soucis, parce que Jésus est au-dessus de tout. Et nous sommes assis avec lui, nous sommes assis avec lui, au-dessus de tout. Dans une position de repos, dans une position de sécurité, dans une position de triomphe, et ce soir nous pouvons le bénir et le glorifier. Seigneur, j'étais couché dans la mort, mais ce soir je crois que je suis assis avec toi dans les lieux célestes. Et parce que nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes, nous pouvons être debout sur la terre. Vous me suivez toujours? Et nous pouvons marcher. Pour marcher, il faut être debout. Et à quatre reprises, dans l'épître aux Éphésiens, parce que nous sommes dans cette épître cette semaine, le Seigneur nous exhorte par l'apôtre Paul à marcher. Je vous exhorte au chapitre 4, à marcher d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé. Un peu plus loin, ce que je dis, ce que je déclare, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. Un petit peu plus loin, il dit marcher dans la charité à l'exemple de Christ. Et un petit peu plus loin encore, vous êtes enfants de lumière, marchez comme des enfants de lumière. Couchez, c'était autrefois, assis, c'est aujourd'hui dans le ciel, debout, c'est aujourd'hui sur la terre. Et puis j'arrive à mon texte, la position, suivez-moi bien, qui va relier le fait d'être assis avec lui dans le ciel et en même temps debout sur la terre pour marcher, c'est le fait de fléchir les genoux. Parce que entre la position assise dans les lieux célestes au chapitre 2 et puis le chapitre 4, 5 qui nous exhorte à être debout pour marcher, il y a le chapitre 3 où Paul dit « Je fléchis les genoux devant le Père ». C'est par la prière, mon frère, ma sœur, que vous entrerez en possession des richesses de Dieu qui vont vous permettre de vous conduire selon la volonté de Dieu. Oui, c'est vrai, le Seigneur m'a fait asseoir dans les lieux célestes. Oui, c'est vrai, le Seigneur a le pouvoir de me tenir debout sur la terre, quoi qu'il arrive, et jusqu'à la fin. Mais pour que je puisse vivre pleinement cela entre les deux, j'ai besoin de fléchir les genoux devant le Père. Nos églises, je vais vous le dire, sont ce qu'elles méritent. Et nous avons ce que nous méritons. Dieu, dans sa parole, dit : vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Nos vies de prière sont réduites à une peau de chagrin. Nos réunions de prière deviennent des réunions extrêmement pauvres, où on divise les auditoires par quatre aujourd'hui, quand c'est pas plus. On fait salle pleine à peu près le dimanche matin, réunion d'évangélisation sur, pour le peu qu'il y ait un petit plus, qui attire les gens, on fait des auditoires bien remplis, mais quand il s'agit de l'heure de la prière, alors là on fait des divisions sérieuses, parce que la prière n'intéresse plus grand monde au sein du peuple de Dieu aujourd'hui. Et je vous l'adresse comme un signal d'alarme, parce que l'apôtre Pierre a écrit « La fin de toute chose est proche ». Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. C'est ce que nous devrions faire de plus. Quand il a parlé de la proximité de son retour, Jésus a dit « Veillez et priez en tout temps ». Le Seigneur Jésus a laissé une parabole pour nous montrer qu'il nous faut toujours prier et ne pas nous relâcher. Je suis très inquiet sur l'avenir de nos églises aujourd'hui à cause de la carence dans la prière. Nous parlons du petit auditoire de nos églises dans les réunions de prière, mais on va aller plus loin parmi le peu qu'il y a dans nos réunions de prière. Combien prient le Seigneur ? Combien élèvent leur voix ? Avec un cœur brûlant. Ah, comme nous aimerions revoir des réunions de prière comme au temps de l'Église primitive, quand les apôtres sont revenus vers les leurs, parce qu'on avait donné des interdictions d'évangéliser, ils ont partagé les problèmes avec l'Église. Et la parole de Dieu nous dit qu'ils n'ont pas fait une pétition, qu'ils ne se sont pas mobilisés pour aller se plaindre aux autorités, mais ils ont décidé de régler ça dans la prière. Et la parole de Dieu nous dit, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble. Tous ensemble, ils ont élevé la voix. Ils se sont appuyés sur la parole de Dieu. Ils ont cité la parole de Dieu. Ils ont prié avec une grande vigueur, sans se laisser intimider, demandant à Dieu de les bénir, de les fortifier, de les secourir, de leur donner de l'assurance. Et à la fin de la réunion de prière, le lieu où ils étaient assemblés a tremblé. Bon, ça arrive ou ça arrive pas, on s'en moque. Mais il est dit, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Ça, c'est la vie de l'Église. Un peuple qui porte les problèmes devant le Seigneur, qui s'unit, un peuple qui est là, formé de tous et de toutes, et qui ensemble invoque le nom du Seigneur. Ça, c'est ce que j'ai pas eu le temps de vous dire hier soir. En ce qui concerne l'approche plus profonde du texte qui nous préoccupe, vous aurez certainement remarqué à la lecture hier soir et ce soir que la plénitude de Dieu est introduite par un ensemble de richesses. Et c'est ça que je vais partager avec vous jusqu'à dimanche. Il faut que nous ayons le temps, au moins ça, de voir le désir de Dieu de nous faire entrer en possession de quatre grandes richesses spirituelles. Dans ce texte, elles sont introduites toutes les quatre par l'expression « afin que » ou « en sorte que ». Permettez-moi de vous relire ça. Paul dit, alors qu'il prie, que Dieu vous donne, selon la richesse de sa gloire, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Afin qu'il vous donne, en sorte que, afin que, en sorte que. Vous comprenez qu'il s'agit là de quatre maillons d'une chaîne glorieuse. Et que ces quatre richesses ne peuvent pas être isolé, cloisonné. Je veux dire par là que personne ici ce soir ne peut dire « Ah ben oui, l'apôtre Paul a demandé que les Éphésiens soient fortifiés dans l'homme intérieur par le Saint-Esprit. » Ça, c'est ça qui m'intéresse. C'est pas possible de raisonner comme ça. Parce qu'une fois fortifié dans l'homme intérieur par le Saint-Esprit, je vais être inévitablement et glorieusement entraîné vers une deuxième richesse. C'est que Christ va habiter dans mon cœur par la foi. Et Christ habitant dans mon cœur par la foi, je vais être conduit vers une troisième richesse, puis vers une quatrième. Et cette quatrième, justement, c'est d'être rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Vous comprenez donc qu'une richesse conduit à la suivante, et ainsi de suite. Et l'apôtre Paul était intelligent de ces choses-là, et c'est la raison pour laquelle sa prière suit le même processus. C'est très impressionnant. Première richesse, que vous soyez fortifiés dans l'homme intérieur par le Saint-Esprit. Il faut que chacun de nous, nous permettions à Dieu de nous fortifier dans l'homme intérieur par le Saint-Esprit. Recevoir du Seigneur la force spirituelle indispensable. Cette force va nous conduire à une expérience plus profonde avec Christ, à une communion plus intime, à une intimité glorieuse avec Jésus, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Et cette habitation de Christ dans le cœur va nous rendre capables d'accéder à une troisième richesse, c'est celle de comprendre son amour infini. Et cela va déboucher, je le répète, sur la quatrième richesse, être rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Alors ce soir, on s'arrête sur la première richesse, ce sera largement suffisant. Je relis cette phrase glorieuse de l'apôtre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. On va y aller pas à pas, tranquillement. L'apôtre Paul commence par dire, afin qu'il vous donne. Ça, c'est encourageant. Paul ne dit pas « afin que vous achetiez ». Il ne dit pas « afin que vous méritiez ». Mais il dit « afin que Dieu vous donne ». La grâce dans laquelle nous sommes entrés est gouvernée par le principe du don. Quand le Seigneur nous a pardonné nos péchés et qu'il a changé nos vies, nous n'avons pas acheté, nous n'avons pas mérité, mais nous l'avons reçu comme un don par la foi. C'est Christ qui a tout mérité. C'est lui qui a donné sa vie sur la croix. Et Paul dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un cadeau, c'est un don de Dieu. Eh bien, le reste de la vie chrétienne se vit dans le principe du don. Dieu qui m'a donné le salut va continuer à me donner dans ma vie spirituelle les choses dont j'ai besoin. Il ne s'agit pas d'être fortifié par le Saint-Esprit dans l'homme intérieur par nos efforts, par nos œuvres, par nos mérites, mais Paul dit, mon frère, ma sœur, réjouis-toi, parce que c'est un don. Dieu va te donner d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. C'est un programme glorieux, c'est un programme élevé, c'est un programme qui doit nous préoccuper, nous enthousiasmer, ne pas nous décourager en disant mais être fortifié dans l'homme intérieur par le Saint-Esprit, c'est possible, et c'est possible comme un cadeau de Dieu. Moi, j'aime bien les cadeaux, ça ne me coûte pas cher, quand on me les fait. Béni soit Dieu qui désire nous donner. Je vais vous le rappeler, mais il faut que nous comprenions que Dieu accorde à ses enfants ce qu'il lui demande conformément à sa parole. Et il faut donc que ce soir nous abandonnions nos réticences, nos hésitations, nos raisonnements, notre passivité. Nous sommes là au bord de richesses extraordinaires et Dieu veut nous les donner. Tous nos progrès dans la vie chrétienne dépendent d'une seule chose. Bien sûr, il faut que nous soyons capables d'agir en conséquence et que nous marchions avec le Seigneur le mieux possible, bien évidemment. Mais tous nos progrès dans la vie chrétienne dépendent d'une seule chose, c'est de nous approprier par la foi la force toute-puissante de l'Esprit que Dieu veut déverser en nous. C'est formidable de réaliser que la puissance du Saint-Esprit est disponible pour notre vie chrétienne. Dieu veut nous donner. Nous représentons ce soir une petite fraction de l'Église de Jésus-Christ. Mais nous devons être convaincus de ceci, que la seule ressource que nous ayons, c'est la puissance du Saint-Esprit. Et qu'elle est pleinement suffisante. Mais c'est la seule ressource que nous ayons. Parce que les autres richesses dépendent de celle-là. Qu'il vous donne d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Quelqu'un a écrit ceci, écoutez-moi bien, c'est effrayant, parce que c'est vrai, malheureusement. Si Dieu ôtait le Saint-Esprit de ce monde, la plus grande partie de ce que les chrétiens font poursuivrait son cours et personne ne verrait la différence. Ce qui veut dire que nous n'agissons pas dans la puissance de l'Esprit. Et je dis que ce que cet homme de Dieu a dit est vrai, malheureusement. Que si Dieu ôtait la puissance de l'Esprit de la terre, dans beaucoup d'endroits au niveau des églises et des foyers chrétiens, on ne verrait pas la différence. Parce que la puissance de l'Esprit est laissée de côté. Nous avons nos expériences chrétiennes, nos années de conversion, notre savoir-faire. On sait mener une réunion. Avec le temps, on a du métier. On sait faire les choses. C'est tout juste si on dit au Seigneur, maintenant tu peux te reposer, tu sais, on n'a plus besoin de toi, on sait faire. La puissance de l'Esprit est laissée de côté, alors qu'ici nous avons le programme de Dieu pour nous, qu'il vous donne, mais qu'il vous donne d'être puissamment fortifié dans l'homme intérieur par le Saint-Esprit. Dans le livre des Actes des Apôtres, nous voyons la primauté de la personne et du ministère du Saint-Esprit. Savez-vous qu'on a noté 59 référence au Saint-Esprit dans le livre des Actes. Si vous l'enlevez, il n'y a plus rien. Ça commence par une recommandation de Jésus qui dit à ses disciples, surtout ne vous éloignez pas de Jérusalem. Il y avait des âmes à sauver, il y avait des églises à fonder, il y avait des possédés à délivrer, il y avait des malades à guérir. Mais Jésus a dit, ne bougez pas de là, ne faites rien, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance de l'Esprit. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Le Saint-Esprit vient, l'apôtre Pierre prêche un message tout simple, un message, 3000 baptêmes. Aujourd'hui, 3000 messages, un baptême. Vous riez, mais il faut pleurer. Je vous le dis, vous ne me réinviterez peut-être jamais plus, mais ce n'est pas grave. je vous le dis. Continuons comme ça, et nous allons mourir. Vous savez pourquoi ? Parce que Jésus a dit, c'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Et si nous laissons de côté la puissance de l'Esprit, nos églises vont mourir. Nous aurons nos salles, nos sonos, nos synthés, nos guitares, nos chorales, nos pasteurs, mais nous aurons perdu la vie. Parce que c'est l'Esprit qui vivifie. Et ce soir, je ne peux pas écouter ce message-là n'importe comment. Je ne peux pas être à la réunion en train de parler à ma copine, la caresser dans le dos, lui faire des mimis, des bisous, en disant vivement que ça se termine. Non. Nous avons là un programme sérieux de Dieu. Un programme sérieux. Dieu dit, attention, il y a un apôtre qui a prié parce qu'il a tout compris. Il a compris qu'il fallait que l'Église reçoive du Seigneur comme un don, comme un cadeau d'être puissamment fortifié dans l'homme intérieur par le Saint-Esprit. Qu'il vous donne, ah ça c'est encourageant aussi, non seulement c'est un cadeau, mais c'est un cadeau généreux, selon la richesse de sa gloire. Je voudrais vous dire que c'est la gloire dont Jésus lui-même est le centre. Jésus a dit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. L'Épître aux Hébreux me parle de Jésus comme étant le reflet de la gloire de Dieu. Christ est retourné dans la gloire. Et c'est de là qu'il a envoyé le Saint-Esprit. Ce Jésus, dit Pierre le jour de la Pentecôte, Dieu l'a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. Et puis Dieu l'a élevé par sa droite. Il l'a élevé dans les lieux célestes. Et Jésus a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu. Le Saint-Esprit vient selon la richesse de la gloire de Dieu. Et la richesse de la gloire de Dieu, c'est Christ. Je vais ouvrir une parenthèse, mais je vais y mettre toute ma force et mon cœur. Le ministère du Saint-Esprit, c'est de glorifier Jésus. Le ministère du Saint-Esprit, c'est de nous amener à Jésus. Le ministère du Saint-Esprit, c'est d'amener Christ jusqu'à nous. Et il faut que nous réfléchissions, nous chrétiens, au mobile qui nous pousse à établir une relation avec le ministère du Saint-Esprit. Des chrétiens prient en disant « Ah Seigneur, j'aimerais tellement être baptisé du Saint-Esprit et parler en langue. » Et Dieu dit « Pourquoi ?» Parfois certains chrétiens souffrent d'un complexe d'infériorité. « J'aimerais bien pouvoir parler en langue comme les autres, mais ce n'est pas le but. » Le but, c'est que Dieu soit glorifié dans ta vie. Ah Seigneur, j'aimerais recevoir le don de prophétie. Pourquoi ? Frère Butler disait qu'un jour, une sœur priait pour avoir le don de prophétie, elle ne le recevait pas, elle est allée le voir, déçue, découragée. Il lui a dit, mais pourquoi vous voulez recevoir le don ? Et cette sœur a dit au frère Butler, parce que quand quelqu'un prophétise, toute la salle se tait, on écoute. Ou parler de la motivation. Mais si je reçois des dons spirituels, c'est pour que Christ soit glorifié. Et le Saint-Esprit ne va pas entrer en contact avec moi pour autre chose que de glorifier Christ dans ma vie. Parce que si c'est pour ma gloire, le Saint-Esprit ne viendra jamais. Si moi, en tant que pasteur, prédicateur, si je suis apôtre, prophète, évangéliste, quel que soit le ministère, je désire être rempli du Saint-Esprit, mais Dieu ne peut qu'être d'accord avec ça, parce que sans le Saint-Esprit, je ne peux rien faire. Mais Dieu me dit pourquoi ? Pour avoir des résultats ? Pour que l'Église se dise, on a un pasteur comme ça ? Pour que les autres pasteurs, collègues, disent, avec lui, hein, ça tourne. Marquez, quand on est un peu trop béni, parfois, ce n'est pas l'admiration qu'on suscite, c'est la jalousie. Faut faire attention. Mais non, le Saint-Esprit ne sera pas d'accord avec ça. Si le Saint-Esprit donne sa puissance à un ministère, c'est pour que Christ soit glorifié, et pas autre chose. Je vais vous le dire, n'oubliez jamais cette phrase-là, elle est formidable, elle est de moi. J'ai eu cette pensée dans ma chambre d'hôtel ce matin. Toute autre conception du ministère de l'Esprit, si ce n'est pas de glorifier Christ, est une pollution de notre pentecôtisme. C'est une pollution de notre pentecôtisme. Parce que le désir du Saint-Esprit, et c'est son ministère, c'est de glorifier Jésus. Alors sachons puiser ce soir dans cette richesse divine, elle est inépuisable, venons puiser dans cette richesse constamment à notre disposition. Et puis, avez-vous remarqué qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire. Dieu ne va pas nous donner la puissance de son esprit tirée de ses richesses. Mais il va nous la donner selon la richesse de sa gloire. Je dirais, je ne comprends pas bien. Alors je vais vous l'expliquer, c'est tout à fait différent et bien plus grand. Supposez que je sois milliardaire, c'est vraiment une supposition, hein, et que je donne à Jonathan 1000 euros. Ah, il est un peu déçu. Je vais lui donner quelque chose de mes richesses. Maintenant, je prends un autre exemple. Je suis toujours milliardaire, mais je donne à mon frère Riquet 1 million d'euros. Ah, regardez comme il est content. Enfin, il n'y croit pas trop parce qu'il a fait comme ça. Je ne lui donne pas de mes richesses, mais cette fois, je lui donne selon ma richesse. À lui, je lui donne une portion de ma richesse. À lui, je lui donne en proportion de ma richesse. Or, le texte des Éphésiens ne me propose pas la puissance de l'Esprit comme une portion des richesses de Dieu. Mais Dieu va me donner la puissance de l'Esprit en proportion de sa richesse. Il va vous donner selon la richesse de sa gloire. Et ce soir, ce n'est pas un filet d'eau que Dieu veut nous donner, mais des fleuves d'eau vive. Dieu n'est pas le Dieu de la portion, il est le Dieu de la proportion. Et il va me donner selon ses richesses, que son nom soit glorifié, puissamment fortifié par son esprit, pour réaliser toutes les grâces énumérées dans le début de l'épître. Alors, il a fait de nous ses enfants d'adoption. Oui, il nous a donné en Christ la rémission des péchés, le pardon. Mais pas seulement ça. Il a fait de nous ses enfants d'adoption. Il veut que nous soyons saints, irrépréhensibles, que nous goûtions à l'abondance de sa grâce. Il dit qu'en Jésus nous sommes héritiers, qu'en Jésus nous sommes scellés du Saint-Esprit promis. Il y a une multitude de grâces dénumérées dans le chapitre 1er de l'Épître aux Éphésiens pour que nous puissions les réaliser dans notre vie. Nous avons besoin d'être puissamment fortifiés dans l'homme intérieur. Nous sommes si lâches, si paresseux, si faibles, si négligents. Cette force puissante, mon frère, dont tu as besoin pour être debout, c'est tellement dur. Tu sors dans la rue, tu as les affiches impudiques qui t'agressent. Tu tournes le bouton de ta radio dans la voiture pour écouter les infos. Juste avant, tu as des pubs impures. Tu vas là, dans quelques magasins pour acheter quoi que ce soit, tu as des magazines. Les unes des magazines sont des photos impures. C'est une agression permanente. Qu'est-ce qui va nous permettre, et je parle de ça, mais il y a d'autres choses, qu'est-ce qui va nous permettre à nous d'être debout, d'être puissamment fortifié dans l'homme intérieur par le Saint-Esprit. Zacharie disait, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Amen. Jésus disait du Saint-Esprit, il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et il vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Je termine avec une vérité. Que vous soyez fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur. Nous savons par l'enseignement de Jésus que c'est du dedans que viennent toutes les choses mauvaises. C'est du dedans, dit Jésus, c'est du cœur des hommes, que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souille l'homme. L'être intérieur du pécheur perdu, on l'a dit, est mort. Il revient à la vie avec Christ. Et béni soit Dieu pour tous ceux et toutes celles qui, ici ce soir, sont revenus à la vie avec Jésus. Il faut donc réformer premièrement l'homme intérieur. Il faut le fortifier. Il faut qu'il soit puissamment fortifié par le Saint-Esprit. L'homme intérieur, c'est pas ce que je peux voir de vous dans la réunion ce soir. C'est pas ce que le pasteur voit de toi dans la réunion. C'est pas ce que les autres voient de toi. Oh, je vais même aller plus loin. L'homme intérieur, c'est même pas parfois ce que ton mari connaît de toi, ou ta femme, ou tes enfants, ou tes parents. C'est ce qu'il y a vraiment au tréfonds de ton être, c'est ce que tu es vraiment au plus profond de toi. Vous savez, il y a des hommes qui ont une certaine attitude dans l'église, mais la femme en aurait long à dire sur ce qu'ils sont chez eux. L'homme intérieur, qui prend un masque pour l'église, qui prend un masque pour les réunions, mais Dieu sait, lui, il voit. Et je dis que ça va plus loin, ça va même sur le plan personnel, ce que nous sommes vraiment, ce que nous sommes, ce que tu es au fond de ton être. Tu vas me dire ce soir, je suis chrétien. Oui, ben on va laisser ça de côté. Ce que tu es vraiment au fond de ton être, toi qui te dis chrétien. L'homme intérieur, c'est ça, c'est ce que tu es là, au fond. Quand tu es seul à seul avec toi-même. J'ai été étonné. En grec, j'y connais rien, mais ma femme a fait des études de grec. Et je l'ai dit partout, c'est pour ça que je me suis marié avec elle. Il y a ce texte dans l'épître de Pierre. Écoutez bien, mes sœurs. Il y a ce texte dans l'épître de Pierre où l'apôtre, s'adressant aux femmes, dit « Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. » La version Darby, parce que ça c'est la version seconde, la version Darby traduit et elle traduit vraiment le texte. C'est littéral. Vous, et la Bible s'adresse aux femmes, vous dont la parure ne doit pas être extérieure, alors il y a les cheveux tressés, les ornements d'or, etc. Vous dont la parure ne doit pas être extérieure, mais l'homme caché du cœur, dans l'incorruptibilité d'un esprit doux et paisible. C'est-à-dire que quand le Saint-Esprit s'adresse à l'être le plus profond de la femme chrétienne, le Saint-Esprit emploie l'expression « l'homme intérieur ». Parce qu'il y a des épouses qui se sont peut-être dit « l'homme intérieur, c'est pour mon mari, qu'est-ce qu'il prend en ce moment ?» Mais ma sœur, ce que tu es au plus profond de ton être, là, seul avec toi-même, la Bible appelle ça l'homme intérieur. L'homme intérieur, ça concerne l'homme et la femme. C'est notre être spirituel le plus profond. Vous avez en mémoire le texte des Proverbes ? Garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que de lui viennent les sources de la vie. Ça jaillit de l'intérieur. Quel est le programme de Dieu ? Mais c'est de s'attaquer à la source même de la vie, de ta vie, de ma vie. Le programme de Dieu, c'est de s'attaquer à ce qu'il y a de plus intime en nous. Et le Seigneur va rendre possible par son esprit une existence totalement nouvelle. Ce soir, le problème n'est pas de savoir si nous sommes régénérés. Nous le sommes, nous qui sommes chrétiens. Et pour ça, nous disons gloire à Dieu. Alors, on ne parle pas de ça. C'est vrai, nous sommes convertis, nous sommes régénérés. Ce n'est pas de ça que je suis en train de parler. Je m'adresse à tous ceux qui sont régénérés. Mais je leur dis, mais tout en étant régénérés, Dieu s'attaque à la source même de la vie, parce que c'est un combat constant avec l'homme intérieur. Et c'est là, à l'intérieur, que constamment nous avons besoin d'être fortifiés par le Saint-Esprit. Nous avons besoin d'apprendre à approfondir notre communion avec Dieu et de sonder les choses célestes. Je vais terminer en vous disant ceci. Considérons nos voies ce soir. Examinons nos voies et permettons à Dieu d'entrer dans tous ses droits sur notre être. Je n'ai pas l'autorisation de la part du Seigneur à dire « Seigneur, je t'appartiens, mais ne règne pas sur toute ma vie. Il y a des territoires que je veux garder. Tu ne dois garder aucun territoire pour toi. Dieu a des droits sur toute ta vie. » Et pour ça, il faut que tu sois fortifié dans l'homme intérieur par le Saint-Esprit. Je reviendrai sur cette pensée demain après-midi en introduisant la seconde richesse. Ça nous emmènerait un petit peu trop loin. Vous allez me dire, mais pratiquement, frère, je suis d'accord avec ça, moi j'ai envie de ça. Envie d'être fortifié dans l'homme intérieur par le Saint-Esprit. Mais comment pratiquement ? Eh bien, je dis, nourris-toi de la parole de Dieu. Tu sais lire ? Alors lis la parole de Dieu tous les jours. Une parenthèse, je l'ai dit à Narbonne, tu sais pas lire ? Apprends à lire. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine de pouvoir lire après la parole de Dieu. En attendant ça, eh bien, elle existe sur cassette, sur CD. Achète les CD, il y a la Bible est lue entière sur CD. Écoute la parole de Dieu, nourris-toi de la parole de Dieu. Prie le Seigneur. On s'entend bien, une vraie prière, un vrai temps de prière. Adore-le. Décide d'obéir au Seigneur sans réserve. Avec sa grâce, garde-toi pur. Et tout ce chemin-là va permettre à Dieu de te fortifier puissamment, selon sa richesse, dans l'homme intérieur, par son Esprit Saint. Nous allons nous recueillir quelques instants. Ô bon et tendre Père céleste, nous te bénissons pour ce formidable programme à notre disposition de par ta miséricorde et ta grâce. Il y a là ce soir pour nos cœurs une formidable richesse. C'est la possibilité en permanence d'être puissamment fortifié dans l'homme intérieur par le Saint-Esprit, et cela selon la richesse de ta gloire. Nous avons parlé au début, Seigneur, de ceux qui sont couchés dans la mort et le péché. Nous nous sommes adressés aux jeunes, pas seulement à eux, aux adultes, nous sommes adressés aux rétrogrades. Ce soir, je prie pour que ceux qui sont couchés dans la mort se lèvent et acceptent Christ, qu'ils viennent pleurant sur leurs péchés, jetant à tes pieds leur alcool, leur drogue, leur vice, et croyant que le Saint-Esprit peut les régénérer, que le sang de Jésus peut les laver de tout péché. Je prie pour les chrétiens chancelants, comme Eutychus assis sur le bord de la fenêtre, partagé entre le monde et Christ, qui sont en danger de mort. Je prie ce soir pour qu'ils se ressaisissent et que la vie de Jésus passe en eux. Ô Seigneur, que nos cœurs s'ouvrent et que nous soupirions après toi pour que le fleuve de l'Esprit nous fortifie intérieurement. La réunion est loin d'être terminée. Je ne vais pas dire qu'elle va être longue encore. Je dis qu'elle est loin d'être terminée sur le plan de l'intensité spirituelle, pas sur la longueur. Et j'aimerais que nous restions recueillis, s'il vous plaît, nos yeux fermés. Je crois que le Saint-Esprit, au début du message, a parlé à des jeunes morts dans leurs péchés, cet après-midi, ou il y a quelques jours. À des hommes, des femmes d'âge plus mûr, morts dans leurs péchés depuis plus longtemps, ou depuis très longtemps, et qui se disent « Mais ce n'était pas possible que Dieu m'aime encore et change ma vie. Mais si, et il va le faire ce soir. » La possibilité à un frère, à une sœur rétrograde qui a lâché la main du Seigneur, de remettre sa main dans celle de Christ. On ne revient pas à Christ parce qu'on revient à une réunion. On revient à Christ quand on revient à Christ. Et c'est une chose que de revenir dans une salle de réunion. C'en est une autre que de revenir à Christ. Alors c'est bien que tu sois là ce soir, mais ce n'est pas suffisant. Il faut que tu reviennes à Christ ce soir. Alors nous laissons le Saint-Esprit travailler les cœurs. Peut-être personne n'est-il concerné. Mais s'il y a une fille qui sait qu'elle est morte dans ses péchés ce soir, comme à la fille de Jaïrus, Jésus te dit, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Je peux communiquer la vie à ton cœur, pardonner tes péchés, te transformer. Arrête ce style de vie où le diable met son empreinte sur toi. Laisse-moi refaire ta vie. Ce soir, donne-moi ton cœur, que je puisse te laver de tes péchés, faire de toi une fille de Dieu ou un garçon de Dieu, un homme, une femme de Dieu. Ce qui va se passer dépend du Seigneur et dépend de toi. Si tu ne réponds pas, ça ne m'enlève rien. Si tu réponds, ça ne m'ajoute rien. Moi, je prêche l'Évangile. Comme un facteur, j'ai apporté la lettre de Dieu. Toi, tu en fais ce que tu veux. Mais si, garçon, fille, homme, femme, tu te sens concerné, tu veux de ce soir donner ta vie à Jésus, je demande de te lever à ta place. Tu vas marquer ainsi le désir de recevoir Christ dans ta vie. Nous gardons nos yeux fermés, nos têtes inclinées. Mais s'il y a un garçon, une fille, un homme ce soir, une femme qui veut donner sa vie à Jésus, alors tu te lèves à ta place. Et au fond de ton cœur, tu dis, Seigneur, j'ai entendu ta voix au travers du prédicateur. Je ne veux plus rester dans le chemin de l'enfer, dans le chemin de la mort. Ce soir, Seigneur, je te donne ma vie. Je veux me convertir. Je l'ai fait à 16 ans et je ne regrette pas de l'avoir fait. Jésus a bouleversé ma vie. Il n'y a pas eu que des chemins faciles avec lui. Mais c'est la seule vie, c'est la meilleure des vies, c'est la plus belle des vies. Et je vous encourage ce soir à faire ce pas vers le Seigneur. Et puis s'il y a des chrétiens ou des amis rétrogrades qui sont là dans toute la faiblesse de leur vie, qui sentent que les choses ne vont plus du tout, du tout, du tout, et qui se disent, mais il faut que ce soir le Seigneur me fortifie dans l'homme intérieur par le Saint-Esprit. Il faut un renouveau ce soir, et pas seulement ce soir, mais demain et après-demain. Il faut que chaque jour, je renoue avec le Seigneur. Alors mon frère, ma sœur, tu te lèves ce soir à ta place, et on va prier de tout notre cœur pour que le Seigneur agisse. Ça ne va pas se faire comme ça, parce que tu es debout. Il faut qu'au-delà du fait de te lever, ce soit ton cœur que tu apportes au Seigneur. Et tandis que tu es debout, là au fond de ton cœur, tu pries, « Seigneur, je t'apporte ma vie telle qu'elle est. Ce soir, renouvelle-la. Tu as dit que tu allais donner, selon la richesse de ta gloire, d'être puissamment fortifié dans l'homme intérieur par le Saint-Esprit. Alors je le fais, je le crois, je me mets debout. » pour renouer avec toi pour une vie chrétienne puissante. Nous laissons le Saint-Esprit travailler les cœurs, soit pour une conversion véritable, soit pour un retour vers le Seigneur. Et si nous sentons qu'il nous attire à lui, qu'il nous parle directement ce soir, ne résistons pas, tandis que nous vivons ces secondes en sa présence. Levons-nous encore, il n'est pas trop tard. Dans quelques secondes, un pasteur va prier pour ceux qui sont debout. Et vous pouvez encore vous mettre debout, vous pouvez encore céder au Saint-Esprit. Il faut mettre l'orgueil sous nos pieds, cette crainte, qu'est-ce que les autres vont penser. Je sais que ce n'est pas facile de faire ça. Je me mets à votre place, je sais que ce n'est pas facile de le faire. Mais faites-le pour la gloire de Dieu, pour remporter une victoire, pour ne pas permettre à Satan de tenir votre vie une minute de plus, mais pour qu'elle soit livrée dans les mains de Jésus. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Laissez Jonathan prendre la suite, mais nous allons prendre le temps de prier pour ceux qui sont debout et n'allons pas faire une prière de pure forme, mais nous allons vraiment crier au trône de la grâce pour que le Saint-Esprit fasse quelque chose de puissant dans la vie de ceux qui sont debout maintenant. Amen, amen.